Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de l'épisode 26 du podcast Capture Mag, spécialement consacré à Michael Mann. Je suis avec Rafik Djoumi.
Salut Stéphane.
Et je suis avec Julien Dupuis.
Pourquoi je passe toujours après Raph en fait?
Je sais pas, c'est Raph, il est à ma gauche quand je le regarde et toi t'es à ma droite.
C'est par ordre alphabétique.
Et moi je suis de gauche.
Ah c'est ça, d'accord. Ah,
voilà, okay, c'est ça. Bon, ça oui c'est vrai, ça marche en plus ce que tu dis.
Bah, oui.
Voilà. Et dans cette troisième partie on va parler du reste de la carrière de Michael Mann. À savoir, alors on avait parlé jusqu'à Ali à peu près. Et donc là maintenant on va parler de Collateral, on va parler de Miami Vice, de Flic à Miami, on va parler de Public Enemies et de Black Hat. Et on se lance directement dans le vif du sujet avec Collateral. C'est un scénario qu'il a réécrit,
oui.
Et il y a une grosse distinction entre écrire et réécrire, pour le coup.
Alors, oui et non, parce que c'est quand même un film qui s'est énormément réapproprié aussi Collateral. Déjà, ne serait-ce que parce que le scénario original, il se passait à New York, et que lui, il va décider de le situer à Los Angeles. Et rien que ça, en fait, ça change tout, en fait, parce que Collateral,
surtout c'est... avec une logique de taxi, en fait.
C'est un film sur une ville, en fait. Tu pourrais presque le résumer à ça, quoi, et le limiter à ça. Alors, c'est un peu plus gros que ça, mais... Collateral, c'est effectivement, comme tu le disais, c'est aussi un film de pur studio, c'est un film DreamWorks. Et DreamWorks le trimballe un peu à gauche, à droite. Janusz Kaminski, par exemple, le directeur photo de Spielberg, pense le faire à un moment. Il y a la réalisatrice de Deep Impact, dont j'ai oublié le nom, se demande pourquoi, le pacificateur. Mimi Leder aussi, qui est attaché aussi au projet à un moment.
Franck Darabont.
En fait, Franck Darabont était venu en tant que pour réécrire en fait le projet initialement avant, mais je crois pas qu'il était attaché à la réalisation du film. Peut-être que ça a été le cas, mais enfin en tout cas.
Non, c'était au moment bien avant, effectivement, quand ils pensaient en faire une production HBO.
Ah, peut-être. Mais enfin, en tout cas, c'est un projet qui traîne comme ça depuis pas mal de temps. C'est un peu un high concept, c'est-à-dire un film avec un pitch comme ça extrêmement fort. Où tu dis ah tiens. Ça, c'est une histoire, j'ai immédiatement envie de la voir avant même que les personnages soient développés et que le décor soit planté. T'as une dynamique en fait qui semble prometteuse en fait sur le papier, et c'est ça, je pense, qui a été vendeur. Et Michael Mann arrive sur le film étrangement en fait grâce à Russell Crowe. C'est-à-dire que Russell Crowe devait jouer, je crois, le tueur, si mes souvenirs sont bons, ou le conducteur de taxi. J'ai un tout petit doute là-dessus, mais enfin en tout cas un des deux personnages principaux. Et c'est Russell Crowe qui ramène en fait Michael Mann sur le projet, qui l'intéresse au projet. Mais Russell Crowe doit partir au bout d'un moment parce que le projet met donc très très longtemps à se monter. Et le film est proposé finalement à Tom Cruise, je crois, sur l'impulsion de Michael Mann, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, il y a déjà un package là qui semble totalement logique.
Et peut-être préciser juste que à la place du personnage de Jamie Foxx, à la base, ça devait être Adam Sandler.
Alors il y a eu beaucoup d'acteurs aussi qui ont été envisagés, mais
c'est celui qui a vraiment lâché le projet en fait à la dernière minute.
Très tard.
Et Jamie Foxx a été.
Et Jamie Foxx, c'est pour moi reste assez problématique en fait dans Collateral. Je le trouve pas forcément à sa place. En fait, je trouve qu'il y a un problème d'âge déjà. Je le trouve très jeune, peut-être un peu trop jeune. C'est-à-dire que c'est un personnage qui devrait déjà être un peu usé, et c'est manifestement pas le cas du tout du personnage de Jamie Foxx. Et puis moi j'ai un autre problème, je trouve que c'est alors ça me fait un peu mal au cœur de le dire sur un podcast mais je trouve que c'est là où on voit une des limites de Michael Mann. C'est que je trouve qu'il a du mal en fait à faire des vrais losers en fait, c'est-à-dire qu'il fait toujours des personnages quand même assez beaux, assez nobles, assez magnifiques, et là il aurait dû le casser plus en fait, je trouve, Jamie Foxx, et c'est pas trop le cas. Il est un peu trop cool, il est un peu trop
tranquille,
je trouve que on le retrouvera dans Black Hat en fait, ce ce problème-là, en fait, ultérieurement.
Alors, moi, je trouve que c'est moins grave dans Black Cat, en fait, étrangement, même si le film est moins intéressant, peut-être. Mais ce que je trouve, en fait, qui est, c'est, finalement, en fait, je me suis beaucoup posé la question pourquoi Jamie Foxx, qui est un acteur que j'aime bien, par ailleurs, en fait, qui est plutôt un bon
acteur.
Et
qui était super dans Ali, hein, d'ailleurs.
Hein. Voilà, et qui est super aussi, moi, je trouve, dans plus tard dans Miami Vice, quoi. C'est qu'en fait, et c'est Tarantino qui a raconté une anecdote très rapidement sur Django Unchained, où toute l'idée du personnage, en fait, c'est qu'à partir du moment où il doit briser ses chaînes, en fait, il faut qu'il subisse. Et dès les premières scènes, en fait, au moment du tournage, Jamie Foxx jouait les scènes de manière pas triomphale, mais en tout cas cool et à la Jamie Foxx. Et du coup, Tarantino allait le chercher en lui disant « Non, tu peux pas faire ça. Pour que ça marche à la fin, il faut qu'en fait, tu subisses. » Et tout le problème de ce personnage-là, c'est que c'est un personnage qui est passif dans Collateral. Et or, en fait, souvent, Jamie Foxx, dans le film, n'accepte pas de jouer cette passivité-là, en fait, presque de manière culpabilisatrice, en fait. C'est-à-dire de culpabiliser sur l'idée d'être passif vis-à-vis d'un personnage aussi charismatique et effrayant que le personnage, en fait, de Tom Cruise, qui est un professionnel, quoi. C'est-à-dire un type qui arrive, qui est hyper menaçant et qui va,
qui est excellent
dans le film, qui a une nuit pour tuer toutes ces personnes-là et en fait se faire balader par le truc. Donc je pense qu'il est là vraiment le souci, à mon sens, et que, à défaut de dire que c'est les limites de Michael Mann, on va dire, je pense que lui ne s'est pas autant intéressé sur les personnages. Je vais te laisser parler de tout ce qu'il a fait sur la lumière et tout ça, etc., sur le travail des caméras et tout, et peut-être revenir après derrière sur ce que je pense qui est peut-être une des problématiques du film.
En fait, je pense que Collateral, non, mais on peut parler de ça déjà, parce que je pense que Collateral, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même un peu un film pour eux. C'est pas un film pour lui, en fait. Moi, j'ai un peu l'impression
avec un projet de mise en scène.
Ça. C'est-à-dire mais ça change tout. Je suis d'accord, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que, alors, je pense qu'il est quand même impliqué dedans. Il faut quand même savoir que Michael Mann, son grand-père, il se trouve qu'il avait une société de taxi qui lui appartenait. C'est pas anecdotique, je pense que ça, c'est un truc qui le touche, en fait. Il y a quelque chose dans ce métier-là et ça se sent dans le film. Par exemple, la scène d'ouverture qui présente Jamie Foxx, elle est géniale. Elle est formidable, en fait, où tu vois le chaos, en fait, qui entoure cette station de taxi. C'est un vrai souk, c'est un bazar, il y a du bruit, de la fureur, du son dans tous les sens et tout. Et lui, il rentre dans son taxi, il ferme la porte et c'est le vide total. Et là, il est dans son univers, il est dans son monde, il va se reconcentrer, il nettoie son tableau de bord, tout ça, et ça y est, il maîtrise son truc et il va aller jusqu'au bout. Encore une fois, c'est aussi un perfectionniste dans ce qu'il fait et on retrouve ce truc du collage, enfin, c'est pas un collage là, en l'occurrence, mais on retrouve,
c'est une carte postale
qui regarde et tout, et il a toujours à cœur, alors c'est marrant parce que c'est avant les smartphones et tout, mais enfin, il a toujours à cœur de savoir exactement combien de temps tu vas mettre pour aller d'un point A à un point B à Los Angeles, et il se targue de connaître mieux que tout le monde tous les itinéraires les plus optimisés.
Ouais. Mais alors, le truc, moi, c'est que le problème que j'ai justement avec toutes ces choses dont tu parles, en fait, c'est que dans sa manière de se réapproprier finalement son cinéma, ce scénario à travers son cinéma, il y a en fait presque des figures imposées. C'est-à-dire, c'est comme, je vais prendre un exemple peut-être un peu grossier,
ils se sont achetés Michael Mann, hein, je pense. C'est ça le truc.
Mais c'est dommage que Michael Mann ait accepté de se laisser acheter sur ces points-là. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que c'est un peu comme John Woo quand on dit eh ben, mets-nous des colombes, mets-nous des flingues, des doubles flingues, des trucs, etc. etc. Ben là, en fait, t'as le personnage de, encore une fois, qui est effectivement brillant. Hein, il est superbe dans le rôle de Tom Cruise qui est habillé exactement comme De Niro dans Heat, avec cette carte postale comme dans Le Solitaire, avec ces grands moments d'introspection où tu sens que c'est pas écrit par le scénariste de Pirates des Caraïbes, hein, tu vois, faut être clair là pour le coup, parce que c'est le scénariste de Pirates des Caraïbes à la base, tu vois, ces grands moments d'introspection en fait sur le sens de la vie, tu vois, qui sont des pas quelque chose qui est intime, en fait, c'est l'impression qu'on plaque de l'intimisme sur un scénario qui n'en a pas, en fait, du tout. Et du coup, c'est ces moments, en fait, comme ça, où je trouve que tu te dis, OK, il a rattrapé le scénario, il l'a rédigé à sa manière, il a mis plein d'images clés assez fortes, assez flagrantes. Mais s'il y a un truc qui l'a vraiment intéressé, c'est pas forcément, encore une fois, tous les personnages, peut-être plus, en tout cas, celui de Tom Cruise que celui de Jamie Foxx, ça, c'est sûr. Mais, en fait, ce projet de mise en scène qui est l'idée de filmer la ville et la nuit, surtout, c'est-à-dire vraiment d'une manière dont tu la captes complètement, quoi. Et s'il y a bien quelque chose dont on a peut-être oublié aujourd'hui avec le numérique dans, en soi, si tu veux, et qui était vraiment un énorme projet en fait à cette époque-là.
C'était de voir c'était la ville la façon, nuit.
Voilà, comment tu allais capter la nuit et alors, tout ce que tu pouvais pas tourner sans lumière.
Pour expliquer ça, il faut remonter en fait à Hit, si vous me le permettez. En fait, dans Hit, il y a une scène qui est clé en fait dans cette démarche-là de Michael Mann, qui est la scène où le personnage de Robert De Niro discute avec le personnage de Amy Brenham. En fait, le souhait de Michael Mann, c'était d'une part de les inscrire dans la ville, dans Los Angeles de nuit, et d'autre part qu'ils soient éclairés en fait par cette ville-là. Simplement, ils se sont rendus compte que c'était pas possible, c'est-à-dire que la sensibilité de la pellicule les limitait et qu'ils ne pouvaient pas en fait capter à la fois les comédiens et puis ce tapis de lumière très identifiable en fait. De Los Angeles derrière. Donc, il y a un truc qui reste d'ailleurs. Je me rappelle que même à l'époque, c'était déjà un peu choquant dans Hit parce que tu sens en fait la limite technologique à laquelle la vision du cinéaste se confronte. C'est qu'en fait, ils avaient filmé d'abord les comédiens avec une exposition adaptée à des comédiens, mais devant fond vert ou fond bleu, enfin, en tout cas, un fond d'incrustation. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils les avaient filmés in situ, sur ce décor-là. Et ensuite, dans un second temps, ils avaient filmé le panorama derrière, mais avec une très très longue exposition pour pouvoir imprimer sur la pellicule la totalité en fait des lumières de Los Angeles. Et ils avaient composité en fait les deux ultérieurement. Et c'est intéressant en fait ce trucage, parce que moi je me souviens que quand j'avais vu Hit, je m'étais dit mais pourquoi il y a une incrustation là, c'est super bizarre, t'en voyais pas beaucoup des incrustations à l'époque, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui quoi, c'était difficile de faire des incrustations, ça
et
coûtait
pour le coup,
très
elle
cher
était évidente, quoi.
Et elle était et elle sentait quoi, se voyait, c'était bizarre de voir dans un film aussi comment dire
aussi abouti technique,
voilà, et puis presque j'ai envie de dire naturaliste, c'est-à-dire qu'il y a aucun décor dans Hit, rien n'a été tourné en studio, donc tu sais mais pourquoi il y a ça, et en fait c'est parce qu'il avait ce souhait là, il avait ce désir là, et donc c'est quelque chose après lequel il a couru beaucoup. Je pense que ses relations avec la télévision qui elle va s'approprier en fait la vidéo beaucoup plus vite que le cinéma l'a aussi conduit à tester de nouvelles caméras dès qu'elles arrivaient. Et il va commencer à les tester sur Ali. Et ce qui va lui plaire, en fait, à Michael Mann, c'est qu'il se rend compte tout à coup que quand il filme Will Smith sur un toit, avec la ville derrière, tout à coup, il n'a plus besoin de projecteur. C'est-à-dire qu'il comprend intuitivement qu'il est dans un autre langage, que toute la façon d'éclairer ce qui se fait depuis un siècle, en fait, d'éclairer le cinéma, c'est-à-dire avec la K-Light, avec le contre-jour, etc., n'a plus lieu d'être, qu'il suffit d'avoir un tout petit réflecteur sous Will Smith, en l'occurrence, pour que tu aies suffisamment de lumière pour le capter là, et que du coup, tu as une beauté qui est inhérente à cette nouvelle image et à cette nouvelle tessiture. Et ça, c'est quelque chose qui va pousser encore plus loin, évidemment, dans Collateral, qui n'est pas entièrement filmé en numérique. Il y a des portions qui sont filmées en 35 mm en pellicule, parce que à l'époque, notamment, faire des ralentis, c'était quasi impossible, en fait, avec les caméras numériques d'alors, puis c'était pour des scènes en intérieur, enfin bref, il y avait beaucoup de problèmes, mais ça a été une tannée hein, techniquement collatérale. Mais ce qui est incroyable quand tu revois le film aujourd'hui, en fait il y a plusieurs choses, c'est que déjà c'est un film pionnier techniquement, Collateral,
hein.
Qui à l'époque te terrassait, enfin t'avais jamais vu ça. Il y a notamment une scène à la fin où le personnage de Tom Cruise, donc le tueur, essaye de poursuivre le personnage qui est joué par Jada Pinkett Smith dans une tour et il a coupé en fait le courant, le personnage de Tom Cruise, le tueur, et du coup il n'y a plus de lumière, ils sont éclairés uniquement par les lumières de la ville, cette lumière un peu rangée jaunâtre et tout. Et c'était nouveau. Des images que tu n'avais jamais vues, que tu connaissais dans ta vie, dans ton vécu. C'est-à-dire que si tu habites en appartement, que tu es déjà allé dans un appartement, tu as déjà vécu ça, tu éteins la lumière et hop, tu vois ça. Mais qu'au cinéma, tu n'avais jamais vu. Et alors, ce qui est, moi, je trouve hallucinant dans Collateral, c'est à quel point il le pousse, il le comprend, il l'exploite. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la même scène, il y a une scène en plus avec la géographie de l'action qui est super, où Jamie Foxx le voit en fait, ça, et perçoit en fait ces changements lumineux. Et le fait qu'il y ait ces deux personnages en fait qui sont en train de se poursuivre dans cet étage en fait d'immeuble, alors que lui est au sol et qu'il le voit de très loin. Et ça, c'est des choses que tu ne pouvais absolument pas capter auparavant avec la pellicule et avec un tournage classique, ou alors il aurait fallu que tu le fasses
avec des effets spéciaux
ou avec des effets spéciaux, c'est-à-dire par exemple le Night for Day, enfin la nuit américaine, quoi. Ou alors en filmant avec des longues focales qui auraient tout écrasé, qui n'auraient pas du tout donné la même sensation, parce qu'avec une longue focale, tu aurais été plus près de l'action, donc tu étais moins proche du personnage de Jamie Foxx, etc. Il y a un truc aussi qui est hyper intéressant et que j'aime bien rappeler en ce moment, parce qu'on est à une époque, par exemple, sur Mandalorian, tout le monde est ébloui en fait par le travail sur le système de rétroprojection avec des panneaux LED, et c'est vrai que c'est très étonnant, mais il faut rappeler que ça vient de Michael Mann, c'est-à-dire que grâce à la sensibilité des caméras et des collatérales, vous imaginez un peu le truc quoi, il a eu l'idée d'utiliser comme ça des panneaux lumineux sur les côtés du taxi pour refléter et accentuer un peu les lumières de la ville sur les personnages de Tom Cruise et de Jamie Foxx, qui est très fin en fait hein, quand tu le vois hein, c'est pas grossier et tout, mais à l'époque c'était du jamais vu. Il obtient ainsi des changements lumineux qui sont extrêmement subtils et précis en même temps. Et c'est là encore une fois où tu vois que Michael Mann, c'est ses personnages. Enfin, c'est le solitaire de James Caan qui va chercher la mèche hyper longue là pour pouvoir percer le coffre.
C'est le perfectionniste quoi.
C'est le gars qui va se construire ses propres outils pour essayer de pousser un peu toujours plus loin et
en refusant de s'inscrire aussi dans l'héritage aussi de comme tu faisais remarquer à la première émission qu'il acceptait difficilement de faire des références
à d'autres films,
à des prédécesseurs. Le projet collatéral il semble naître en fait d'une séquence de Taxi Driver qui est une scène où Robert De Niro embarque en fait un mec qui veut tuer sa femme
qui est joué par Martin Scorsese
lui-même et l'auteur donc du script original Stuart Beatty avait imaginé que ça serait super cool si le tueur de Collateral était interprété par De Niro, comme si Travis Bickle était passé de l'autre côté quoi. Tu faisais remarquer que Tom Cruise est habillé de la même façon que De Niro dans Heat, et il y avait peut-être une certaine attente à ce que voilà et la dernière le film à avoir vraiment mis en scène le taxi en son cœur, c'était Taxi Driver. C'était aussi la vision. Donc,
que tu oublies très vite le cinquième élément.
Absolument fondamental. Mais le film qui a essayé de capturer justement cette ambiance confinée de l'intérieur du taxi, dans la ville, la nuit.
C'est marrant ce dialogue avec Scorsese. Ouais. Tu vois, j'ai jamais
réalisé. Et le fait qu'il refuse, quelque part, déjà qu'il refuse la proposition de De Niro pour lui préférer Tom Cruise, mais aussi qu'il refuse de s'inscrire dans l'héritage esthétique de Taxi Driver qui est très je sais pas quel terme j'allais dire
baroque
oui c'est ça hein,
ouais,
voilà
carrément hein. Bah oui,
pour finalement tendre une fois de plus
extrêmement latin finalement ouais. Et c'est pas ça
parce qu'il tire encore une fois vers l'expressionnisme comme tu l'avais justement fait remarquer.
Après on parle d'un réalisateur cérébral encore une fois et en l'occurrence la problématique en fait de je trouve encore une fois pour moi j'aime bien Collateral, c'est pas un mauvais film plutôt un bon film mais pour moi j'ai toujours eu ce sentiment en fait que quand un réalisateur est capable de faire enfin pour prendre une image sportive, en fait, il est capable de faire un 400 mètres. En fait, c'est dommage qu'il court un 100 mètres. C'est l'impression que j'avais en fait en regardant le film. Et je trouve que en fait, il y a cette manière de rapporter des pièces de Heat dans le film qui un petit peu, je trouve, dommage en fait, parce que justement, un mec comme Michael Mann, j'ai tendance moi à le voir vraiment en fait casser les codes des films dans lesquels il est censé s'inscrire, quoi. Pour se mettre dedans, pour se fondre dedans. Et je pense que peut-être que pour Stuart Beatty, c'était intéressant d'aller chercher Robert De Niro, mais je pense que pour Michael Mann, c'était pas du tout intéressant. À plus forte raison, parce que le film se termine là où Heat s'ouvre. Mmh. C'est-à-dire vraiment dans le train, le même train de Los Angeles, en fait le même métro, dans lequel arrive le personnage de Robert De Niro au tout début de Heat. Bah, le personnage de Tom Cruise finit là-dedans, en fait. Mmh. Et dans cette espèce d'oubli de la ville, quoi. C'est-à-dire comme une personne qui peut rester là en fait dans un métro et en fait on le retrouvera pas avant le lendemain ou le surlendemain en fait parce que c'est une ville tellement tentaculaire, tellement gigantesque, et c'est ce qu'il dit hein, c'est le discours qu'ils ont dans le film en fait à un moment donné. Donc voilà, et je trouve que tous ces effets rapportés, il y a pas que ça, il y a la fusillade aussi dans la boîte de nuit qui pas renvoie évidemment à la scène de Heat, mais qui quand même, tu vois, fonctionne sur certaines notions comme ça.
La scène de négociation de Jamie Foxx avec les mecs autour de la table qui renvoie aussi à des scènes dans The Insider, mais bon, bref.
Voilà, en fait je trouve qu'il y a un espèce de côté effectivement pot pourri de ce qu'il est capable de faire sur un scénar assez bateau hein, de Stuart Beatty quoi, voire jusqu'à un point où il y a carrément des Deus Ex Machina hein, le truc de Jada Pinkett dans ce personnage là quand il la poursuit à la fin, c'est un Deus Ex Machina total, parce qu'en fait, c'est une cliente qu'il a au tout début, qui l'amène à un point B avec laquelle il discute, et ça devient l'espèce de love interest à la fin de manière complètement fabriquée, parce que en fait, Tom Cruise, qui est le client suivant, cherche à la tuer. Enfin bon, c'est des trucs de scénar, c'est hyper grossier, quoi. Et ça, c'est quand même étonnant, la part de Michael Mann, même si on peut lui reprocher peut-être un ou deux points de contention de mise en scène, enfin de scénario, ici ou là, c'est pas à ce point-là, quoi. C'est pas des raccourcis comme ça. Donc c'est là où moi je trouve que le film est c'est plutôt un bon film, mais avec, je trouve, pour le coup, en fait, j'ai pas envie de dire les limites de Michael Mann, comme tu disais, mais plus mon intérêt, il est là.
Moi, c'est juste sur un personnage. Hein,
ouais, moi, j'allais dire, moi, je pense que c'est plus, en fait, en gros, si tu veux, mon intérêt, il se situe là, et pour le reste, je me base sur ce que j'ai, quoi. Tu vois.
Il y a juste pour terminer là-dessus, un petit point marrant, parce qu'on parlait beaucoup entre Ali et puis là, et Taxi Driver, on a beaucoup parlé de Scorsese. Il y a quand même un truc qui est assez amusant, c'est que juste avant de s'engager sur Collateral, il bossait sur The Aviator, censé être son nouveau film. Et en fait, il se trouve que lui, il va partir sur Collateral, alors que The Aviator va être récupéré par Martin Scorsese. Ça, donc voilà, c'est pour terminer cette discussion entre ces deux.
Qui en plus était là pour le coup le biopic d'un obsessionnel.
Je pense que c'était trop évident pour Martin.
Ouais, justement trop évident.
Je suis pas sûr que ça aurait été un grand film. Voilà.
Alors peut-être presque encore plus évident, justement, c'est Miami Vice, quoi. Ça semblait assez cohérent qu'ils s'attaquent à l'adaptation, et je pense que c'est clairement ce que le studio s'est dit, en fait, Universal, quand ils ont quand même banqué presque 200 millions de dollars dans cette adaptation, ce qui est complètement fou, hein, quand tu réfléchis, vu la gueule du film, quoi. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes aussi, hein, sur le tournage et tout, on va en parler. Et moi, c'est justement pour...
Bah, le studio, ils ont banqué parce que on était au début du revival aussi.
Des années 80.
Il y avait eu plusieurs années avant... la fin du revival 70s avec Starsky Hutch, et en gros, enfin, ça a été pour eux dans cette logique là, hein. Donc on va refaire Miami Ice, et en plus c'est le mec qui l'a fait à l'époque.
Mais alors justement, le truc, c'est que ce qui est étonnant, c'est que tu te retrouves, en fait, alors dans l'esprit des gens, effectivement, Miami Vice, c'est Michael Mann, mais à la base c'est pas vraiment Michael Mann, hein. En fait, c'est pas lui le showrunner, en fait.
Il était showrunner, mais c'est pas le créateur de la série.
Voilà. Et en fait, en gros, s'il y a bien clairement quelque chose qui est assez évident quand tu regardes le film, c'est qu'il a décidé de littéralement pulvériser ce que Miami Vice est censé représenter dans la télévision. Et dans la culture, en fait, dans le zeitgeist de la pop culture de cette époque-là, quoi. C'est un peu difficile de résumer Miami Vice. Je sais que c'est un film qui est vraiment pas aimé. C'est un film qui a été un bide aussi quand c'est sorti. C'est un film qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, dont alors des ouragans, des choses comme ça quand ils ont tourné sur place. Mais aussi Colin Farrell, qui a fait officiellement un arrêt cardiaque et officieusement une overdose. En fait.
Une overdose de coke.
Voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est un film que moi, je trouve assez... malgré le fait qu'il soit aussi mal aimé, assez brillant, dans l'idée que justement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Collateral. C'est vraiment un film où il casse littéralement ce sur quoi il est attendu, mais parce que je pense que précisément il n'est pas, en fait, totalement responsable de la hype totale finalement de Miami Vice, tu vois. Je veux dire, lui, il est pas, je pense pas que, en fait, il soit ultra satisfait des 5 saisons de la série ou ce genre de choses, quoi. Enfin voilà, faut être cohérent, et surtout, en fait, il a vu à mon sens l'intérêt de faire deux choses, en fait, avec ce film, qui sont deux choses qui sont pas forcément habituelles dans ce genre de projet, qui est de faire un grand polar tactique, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, il te montre exactement comment toutes ces branches, en fait, des anti-narcotiques de la DEA, tout ça, etc., fonctionnent, si tu veux, et dans le côté undercover, etc., etc., etc. Donc vraiment, en fait, de montrer comment ils peuvent, tous ces branches peuvent se tirer la bourre, en fait, pour arriver à la base, ils sont censés combattre le même ennemi, et en fait ils sont eux-mêmes en train de se combattre pour arriver à avoir leur truc. Et le deuxième truc dedans, c'est faire une vraie grande histoire d'amour. Et quand je dis vraiment une grande histoire d'amour, c'est, il y a des histoires d'amour dans les films de Michael Mann, c'est évident quand tu regardes Le Dernier des Mohicans, c'est évident quand tu regardes Hit, c'est évident quand tu regardes tous ces films là mais là, c'est limite, en fait, t'as l'impression que ce qui l'intéresse le plus, en fait. Et ce qui, moi, je trouve assez passionnant, assez fascinant, en fait, c'est d'utiliser la figure du flic undercover, qui, parce que justement il est undercover, va tomber amoureux de la personne avec laquelle il est censé dealer et en fait se révéler leur propre personnalité, leur propre masque, tu vois, les enlever en fait et dans une histoire d'amour qui est littéralement impossible en fait à tenir quoi. Donc voilà, il y a ça déjà en premier lieu qui je trouve assez fascinant parce que c'est totalement inattendu dans ce film-là. C'est totalement inattendu dans le sens aussi où le personnage de Croquette, hein, qui était donc Don Johnson dans les années 80 et qui est repris par Colin Farrell, à la base c'est un tombeur ce personnage-là dans la série télé, et là c'est exactement l'inverse, c'est un amoureux transi en fait, c'est quelqu'un qui tombe littéralement amoureux de son personnage, Gong Li. Ça c'est pareil, tu vois, enfin c'est complètement dingue de choisir cette actrice là dans un polar comme ça, dans un truc et de la mettre. C'est pour moi c'est la démonstration qui cherche vraiment à faire un film à fleur de peau quoi, tu vois vraiment. Et ensuite il y a cette idée qu'il va pousser.
Très papier glacé en fait a priori Gong Li, sauf que là il en révèle un cœur vibrant.
Quoi, et quoi. Charnel quoi, ouais. Il y a quelque chose de totalement charnel avec ce personnage là quoi. Et ensuite alors il y a le projet de mise en scène autour du film qui est ultra mais poussé. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a cette idée de. Alors, si on arrive avec le numérique, en tout cas à l'époque, on n'essayait pas automatiquement de retranscrire les notions de. Alors, en fait, on va essayer de copier la pellicule et le sentiment qu'on peut avoir, en fait. C'est presque, en fait, de dire. Voilà, tu as utilisé le terme naturaliste tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'idée de l'utiliser de manière totalement crue et en même temps, en fait, d'en faire ressortir un aspect épique. Tu vois, donc
côté, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a un croisement, en fait, entre. Ces logiques intimistes qui existent en fait et qui font vivre encore une fois les attarmements des personnages. Hein, je trouve que par exemple, si tu veux, la façon dont ils filment la nudité de Jamie Foxx et de sa femme en fait dans le film de Naomi Harris en fait est assez forte aussi parce que mine de rien, c'est cet intimisme en fait que t'as pas l'habitude de voir. En fait, c'est toujours beaucoup plus distant en fait chez les autres et là il y va vraiment. Et voilà. Et tout ça en fait en recontextualisant en fait dans une adaptation d'un film qui aurait dû ressembler à du Michael Bay en fait. En gros, ça aurait dû être vraiment Bad Boys en fait ou un truc comme ça le film quoi. Et je pense que ça c'est peut-être son projet le plus couillu presque en fait, le plus terminal en fait de ce qu'il était capable de. Ok, je peux aller jusqu'où dans le suicide commercial en fait une série qui est encore connue 20 ans après. Son nom m'est associé. On sait qu'on attend de l'action à gogo, on attend de la cool attitude machin et tout ça, et c'est mais complètement
brisé,
mis de côté en fait pour recréer complètement c'est pas une mythologie hein, parce que c'est existe pas, enfin je dirais pas qu'il y a une mythologie chez Miami Vice, mais en tout cas
de la même façon que Miami Vice c'était l'expression esthétique d'une époque, il a peut-être aussi l'ambition d'incarner l'expression esthétique de l'époque à laquelle il arrive.
Ça sera le seul exemple.
Sauf que le contrat avec le public, il est pas clair du tout, parce que le public, il attend du glamour en fait.
Ouais, bien sûr.
Il attend des couleurs.
Mais il y en a en fait, c'est ça qui est le pire. Il y en a avec le personnage de Gong Li et le personnage de Paris.
La romance, quand ils se retrouvent en bateau hyper speed sur la mer, l'image, elle est pas glamour, elle est pour le coup complètement naturaliste, parce que quand t'es en pleine mer, ça ressemble à ça. C'est pas les soleils couchants de la plage de Miami.
C'est ça que je voulais dire. Tu vibres avec l'histoire d'amour. Tu vois, c'est ça que je veux dire aussi. Quoi. Enfin, si t'es impliqué dans.
C'était pas Hitler, ouais, mais je suis Hitler. Moi, j'ai jamais pas du tout été affecté émotionnellement par Miami Vice, mais par contre effectivement complètement surpris par le parti pris graphique absolument radical qui me semblait pas du tout adapté à ce que j'imaginais être le contrat. J'ai jamais été fan de Miami Vice la série non plus, hein, je m'en foutais complètement, mais je me disais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Dès les scènes d'ouverture on est dans une austérité visuelle et narrative qui est quand même qui se pose là. Les personnages sont sévères voire flippants,
même dans leur présentation à tous les deux quoi. Ce plan moi il m'a marqué.
T'as pas envie d'aller boire un coup avec les mecs franchement, alors que c'était mais Croquette et l'autre c'était censé être des potes quoi,
oui mais c'est des beaufs. Non mais c'est ça le problème en fait. Ce que j'adore en fait justement avec ce truc, c'est tu vois, il y a ce truc assez fascinant, je trouve, avec Michael Mann, c'est que s'il y a quelque chose qui disparaît complètement, ça n'existe pas dans son cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a créé des figures où tu les reconnais. Et je vais faire une petite aparté amusante. Hein. Si vous cherchez sur Internet, il y a un mec qui s'appelle Sosie de Robert De Niro dans Heat. Et en fait, c'est un mec qui a créé un espèce d'happening où il joue en fait un fan de Niro dans Heat et il joue en fait un beau Faras avec accent du sud et compagnie, pastis et compagnie, tu vois, sauf qu'il est habillé comme voilà, et c'est assez drôle, moi je trouve ça assez marrant, et je me suis dit ce qui est drôle là-dedans c'est qu'en fait il a réinterprété un personnage qui est pas censé du tout, qui est hyper classe, qui est hyper cinématographique, qui est hyper cinégénique et tout, et il l'a transformé en beau Faras. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, fondamentalement, quand tu regardes le personnage de Colin Farrell, il a tous les attributs d'un beauf. En fait, il a la coupe de cheveux dégueulasse, il a tous ces trucs-là, il a le mulet, quoi, tu vois. Et il a tous ces trucs que même Don Johnson n'a pas, tu vois. Sauf qu'en fait, il est tellement touchant, je trouve, au final, dans la progression du film, qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Donc, il a peut-être les attributs, mais pas du tout la personnalité à la fin, tu vois. Et pourtant, c'est un personnage qui explique, en fait, d'où vient son père, comment ça fonctionne, etc., etc., et comment il a été élevé dans un milieu de prolo et tout, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je trouve, comment dire, assez fascinant, c'est qu'il peut pas, il arrive pas à faire ça, en fait. Il crée vraiment des personnages qui sont des individualistes forcenés, vraiment des gars, en fait, qui se battent, en fait, avec leur environnement. Et c'est ça, en fait, le prix, je trouve. Enfin, c'est le truc, c'est peut-être ça qui me plaît pas dans Collateral, c'est qu'il a essayé de se fondre, justement, dans son environnement, c'est-à-dire le système hollywoodien, etc., etc., et donner un certain...
si pensait vraiment se fondre dans le système hollywoodien...
Je parle de Collateral. Avec Collateral, ah, oui, c'est pardon. Ça qui me plaît pas dans Collateral, et ce que je retrouve avec Miami Vice,
c'est clairement l'inverse. Oui,
ouais, c'est ça.
Comme l'a dit Julien, on me file un chèque de 200 millions de dollars, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme film qui soit totalement à l'opposé de ce qu'ils attendent, quoi. Et alors, après, il reste des trucs quand même qui fonctionnent, hein, faut pas non plus...
Mais moi, j'adore le film, donc je dis ça.
Mais justement, sur le plan action, par contre, il y a un gain notable en termes de présence au corps, en fait, des confrontations et même des non-confrontations, ne serait-ce que lorsqu'ils approchent de la cabane pour faire leur coup et tout, une tension de malade. Il y a cette anecdote comme quoi il avait promis à Colin Farrell qu'il lui ferait participer à de vraies opérations, etc. Et Farrell s'est prêté au jeu, mais en flippant sa race, en fait, pour réaliser, mais un peu tard, quand en réalité, c'était mis en scène. C'est-à-dire qu'il faisait croire que c'était une véritable opération, juste pour qu'il se chie dessus et qu'il puisse sentir ce que c'est que faire une prise de drogue, quoi. Et aussi, au niveau du mixage son, on était heureux parce que depuis Police Fédérale Los Angeles, on n'avait pas eu des coups de feu aussi marquant et impactant.
On a parlé de Hit, hein, quand même.
Sur Hit, il y avait effectivement une séquence, mais là, c'était chaque coup de feu dans le film. En fait. Chaque coup de feu dans Miami Vice, vu en salle, je ne sais pas sur quelle fréquence il joue, mais tu avais l'impression de te ramasser un truc dans le bide. C'était très, très, très étonnant.
Encore une fois, donc là, c'est un film qui est un bide, vraiment. Et en fait, c'est assez étonnant. Michael Mann est assez étonnant avec ça, parce qu'en fait, du coup, tu as l'impression que merde, il se remet en question. Il se dit putain, comment ça se fait que ça s'est bidé. Et en fait, il sort un director's cut, genre 6-8 mois après, je me rappelle, en DVD et en Blu-ray.
Mais je pense pas que ce soit lié au bide, en fait.
Écoute, c'est étonnant parce qu'en fait, l'ouverture du film est quand même assez immersive, en fait, quand tu le vois en salle.
Brutal.
Ils sont assez directement, ils sont en train de suivre leur indic, en fait, dans une boîte de nuit, ils sont en train de partir et tout ça, etc., etc. Et en fait, t'as tout un truc où tu te dis, ok, on est où là ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Qui est qui ? Comment ça joue ? Et t'es complètement pas perdu, mais t'es rattrapé au fur et à mesure. Alors que là, en fait, t'as tout dans le director's cut. T'as toute une scène en fait où de poursuite en bateau, enfin pas de poursuite en bateau, mais de course de bateau, des trucs comme ça, etc., etc., où t'as l'impression qu'en fait il s'est senti obligé de rajouter des trucs à la Miami Vice, en fait, à la façon de la série télé, genre bon alors qu'est-ce qu'il y avait dans le générique, des flammes en rose, allez hop on va les foutre, tu vois. Et en fait du coup c'est un peu étrange parce que ça déséquilibre un petit peu le film. Ouais, y a 7 minutes de différence, hein, je crois. Il n'y a pas non plus... je crois que c'est un truc comme ça, 7-8 minutes. Mais bon, tu le remarques et tu sens qu'en fait, il se dit « Bon, j'essaye de rattraper le coup. » Alors, est-ce que c'est à la demande du studio ? Est-ce que c'est... je sais pas. Mais c'est marrant, cette remise en question, alors qu'en fait, il devrait... Et je pense qu'il a conscience de son radicalisme, en fait, et de sa façon de partir bille en tête, en fait, dans le projet, quoi.
C'est un mec qui doute, hein. Je veux dire, il y a un nombre de remontages de ces films dont on parle depuis, ouais. Depuis tous ces épisodes.
C'est quand même un film avec beaucoup d'aspérité. Miami Vice, c'est quand même un film assez brut, quoi, tu vois. Donc voilà, quoi. A contrario, le film suivant, je pense qu'on peut passer au film suivant, hein, Public Enemies. Oui.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Okay. C'est un film qui est assez étonnant, je trouve, assez étrange. Parce que, alors, pour moi, s'il y a un film qui est vraiment raté, en fait, dans la carrière de Michael Mann, c'est Public Enemy. Et pourtant, vu le sujet, vu le fait qu'on est à ce moment-là, en fait, quand le film est sorti, c'est-à-dire en 2009, trois ans après Miami Vice, on pouvait être habitué, on va dire, à ce que Michael Mann cherche à faire, bah, j'ai l'impression qu'il passe complètement à côté. Alors, c'est Public Enemy, c'est donc c'est la vie de Dillinger, en fait, et notamment ses braquages de banque, en fait, dans les années 30. Et le fait qu'il était poursuivi par un agent du FBI, en fait, qui était interprété par Christian Bale, là, dans le film. Alors là, c'est pareil, une affiche, hein, le film, c'est-à-dire que t'as Johnny Depp d'un côté dans le rôle de Dillinger, Christian Bale qui sortait de Dark Knight et tout ça dans le rôle de Purvis.
Marion Cotillard.
Marion Cotillard dans le rôle de la compagne Billy Fréchette, je crois. Voilà. Enfin, voilà. Et tout un casting de gueule aussi à côté. Il y a Stephen Lang qu'on retrouvera tout un petit peu après dans Avatar, etc. etc. Et en fait, c'est un film qui, moi, m'intéressait sur un point spécifique qui était la reconstitution historique. C'est-à-dire
mais
que...
je pense que c'est ce qui l'intéressait. C'est là-dessus qu'il avait fait beaucoup, beaucoup de recherches.
Oui, mais sauf qu'en fait, étonnamment, la reconstitution historique à travers le prisme du numérique. Mmh. C'est-à-dire c'est comment il allait utiliser justement cette couche supplémentaire, encore une fois, de naturalisme et de OK, c'est le nouveau comment dire, langage, on va dire, de entre guillemets, je vais utiliser des termes un peu de cinéma vérité, on va dire, tu vois, pour jouer sur cette reconstitution et te dire ah, t'es à cette époque-là, t'es dans les années 30 et ça ne marche pas du tout.
Non, et c'est étonnant parce qu'en plus il avait fait des encore une fois des recherches très poussées là-dessus, c'est-à-dire que sur notamment sur les éclairages à la torche quoi. Bon, c'est pareil aujourd'hui ça peut sembler un peu facile en fait d'éclairer avec très peu de lumière comme ça, mais à l'époque c'était un vrai défi, ça avait été un gros défi sur le 13e guerrier par exemple.
Ouais.
Et lui il avait essayé de voir comment tu peux fonctionner, comment une ville elle est qui éclairait comme elles étaient éclairées à l'époque, en fait, quelle tessiture en fait d'éclairage du coup tu avais. Et c'est vrai que t'en as pas le bénéfice en fait dans le film. T'as l'impression que c'est finalement dans ce langage qu'il avait commencé déjà à établir. J'ai presque envie de dire que c'est pas satisfaisant, c'est pas convenu.
C'est pas satisfaisant. Et puis il y a quelque chose qui est assez étonnant avec le film, c'est que en fait il aurait pu être sur des rails pour lui, c'est-à-dire pour justement expérimenter ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de braquage. Comme dans Hit. Il y a un antagonisme en fait, comme dans Hit, entre ces deux personnages-là qui sont finalement plus ou moins similaires. Si ce n'est que, je pense qu'il y a un problème émotionnel en fait, dans le film. On ne ressent quasiment jamais la dangerosité en fait, du personnage de Dillinger, en fait. Parce que, voilà. Mais de la même manière qu'on ne ressent pas du tout aussi son énorme popularité. C'est-à-dire que s'il faut remettre ça dans le contexte, en fait, Dillinger. C'était un des premiers braqueurs stars en fait des États-Unis en fait. C'était un peut-être pas le Robin des Bois en fait dans l'esprit des gens, une période post-dépression en fait.
C'était une rockstar, oui.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un truc qui ressort dans une ou deux scènes quand il va au cinéma et qu'en fait on demande au public de l'identifier si jamais il est dans la salle, ou alors ce moment où les gens l'attendent en fait quand il est en voiture et qu'il s'est fait arrêter et qu'ils sont en train. Mais finalement, c'est quelque chose de très très succinct. Et y a très peu en fait, je trouve, d'éléments. C'est-à-dire que même dans les scènes, alors, c'est vrai que voilà, tu peux pas enlever ça à Michael Mann aujourd'hui, la nuit, dans les films tournés en numérique, c'est des nuits orangées en fait, qui utilisent la source lumineuse en fait, pour la représenter. Donc, du coup, lui, il part pas dans cette esthétique-là, parce que justement, comme tu le disais, il a cherché à recréer ce truc-là. Mais comme tu as l'impression en fait, que pour le coup, tu n'as jamais l'impression d'être dans les villes dans lesquelles ça se passe, tu n'as jamais l'impression d'être dans le Chicago de l'époque, même dans les petites villes, les small towns USA, en fait, tu n'as pas cette impression-là. Tu
as une véritable impression de décor factice dans le film. Ce que je trouve étonnant aussi, c'est à quel point peut-être que, je ne sais pas, hein, c'est une supposition, c'est un mec qui déteste aller à l'évidence, c'est-à-dire à ce qu'on attendrait d'un projet, qui recherche le challenge dans ce projet, mais que du coup, à force d'éviter les évidences, tu peux aussi éviter un truc cool qui pouvait t'accueillir, parce que Dillinger, c'est pas n'importe quoi par rapport à l'histoire du cinéma quand même. C'est un gangster qui est fan de films, qui se fait tuer à la sortie d'une salle de cinéma, qui était même s'improviser critique, puisque il adorait aller voir des films de gangsters alors qu'il en était lui-même un, et ça le faisait marrer de voir comment sa vie était fictionnalisée, et qui a été du coup régulièrement adapté au cinéma et sous différentes formes, que ce soit dans les films d'époque sous d'autres noms, ou dans des films des années 70.
Le Milius, notamment.
Le Milius et tout ça, dans l'Amérique, qui redécouvrait les joies de l'anarchie, quoi. Tu t'appelles Michael Mann, tu es un cinéaste affirmé et tu t'attaques à la vie de Dillinger. Tu as presque l'obligation morale d'aller chercher sur ce terrain-là. Et justement, le fait qu'à l'époque, il est obsédé par l'idée de faire avancer une nouvelle façon de capturer le cinéma ou de mettre en image. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête de se dire je vais éviter tout ça, c'est trop évident, je vais l'éviter, je vais aller chercher ailleurs. Et sauf qu'il y a peut-être rien à chercher ailleurs.
Et moi, je sais aussi que c'est le seul film où c'est dans son recherche forcené en fait d'expérimentation. Moi, je le perds aussi, j'y arrive plus en fait. J'ai un souvenir douloureux en fait du film où je l'ai vu en présence de Michael Mann en fait. Le film a une grosse avant-première au Normandie. Et je vois le film et je passe une partie de la projection en me disant mais il y a un problème de projection là. Là il y a un truc avec le DCP qui a merdé. Et non c'est même pas ça. C'est que j'apprends après par des copains en fait qui bossent à Universal que en fait il y a une équipe, l'équipe de Michael Mann est venue à Paris pour surveiller la projection du film, qu'ils ont fait venir un projecteur de Londres. Qu'ils ont installé au Normandie parce que Michael Mann n'était pas content avec le projecteur qu'il y avait au Normandie et tout. Et que donc, je viens juste d'assister
à la parfaite projection.
À la projection optimale de Public Enemies. Et j'ai malgré tout un sentiment de truc un peu dégueulasse, quoi. Enfin, je me souviens, je crois que c'est Rafik qui t'avait dit ça, c'était dégueulasse fait exprès. Enfin, je sais plus comment t'avais, il y avait un truc comme ça, mais.
J'étais bourré.
Il y a dans ce côté un peu, je me saborde. Il y a de ça aussi, mais je pense que ça fonctionne avec le côté romantique du personnage. Et quand je dis romantique, c'est de façon littéraire du terme. C'est-à-dire le mec qui va tellement au bout de tout que il veut tellement vivre tout que même s'il se consume, même s'il se crame dans le truc, bah voilà, c'est pas grave. C'est même quelque part ce qu'il cherche. Et il y a un truc presque autodestructeur, je trouve, dans Public Enemies, mais pas beau, en fait. Qui est pas très productif, en tout cas.
En tout cas, qui
donne juste un truc vraiment bancal et au final, paradoxalement, presque fade, enfin, en tout cas,
clairement.
Oublie assez vite, quoi.
C'est un film qui est compliqué, je trouve. Et en fait, le truc, parce que normalement, tous les éléments sont là pour dire, OK, il était dans la mouvance de ce qu'il était en train de faire. Mais en fait, il passe complètement à côté. Et effectivement, il y a ce truc où je pense que c'est pas pour rien qu'il est intéressé par des figures en fait de laisser pour compte de gens qui se battent contre un système, parce que je pense que fondamentalement il se voit comme ça, il se traite comme ça, y compris dans le cinéma. C'est-à-dire il est un électron libre dans ce que les studios essayent de faire. Il fait ce qu'il peut pour essayer de faire des films. Aujourd'hui, par exemple, bon, maintenant il faut dire qu'il a 75 ans, mais je veux dire. Et en fait, je pense qu'il y a cette idée que sur un film comme Public Enemies, ça fait sens en fait qu'il fasse un film de braquage, puisque c'est l'ancêtre, on va dire, de Hit, tu vois. Mais effectivement, pour lui, je pense que c'est une problématique émotionnelle. Alors, à peut-être un ou deux passages près. Assez étonnant, en fait, voilà. C'est pas un biopic, le film, mais c'est un film sur un personnage qui a existé, et il y a cette notion, quand même, que, en fait, qu'est-ce qu'il en reste de ce personnage-là ? Ça, Michael Mann, j'ai envie presque de dire, il l'a déjà fait, ce film-là, puisque c'est Hit. En fait, c'est l'ancêtre de ces personnages-là, quoi. Par contre, même si c'est pas évident quand tu regardes Public Enemy, en l'occurrence, et par contre, en fait, quand quelqu'un est mort et qu'il a représenté quelque chose pour d'autres personnages secondaires, oui. C'est là où cette scène fonctionne, en fait. C'est-à-dire à la fois pour le personnage de Stephen Lang, qui est le personnage qui abat, Dillinger, et pour le personnage de Billy Fréchette, et c'est la scène qui les réunit tous les deux. C'est la seule fois où ils se retrouvent face à face. Et ça, c'est une jolie scène. Il y a aussi la scène où, malgré le fait qu'il soit connu, malgré le fait que, en fait, il joue ce passage où il va justement au FBI, il regarde en fait tout ce que le FBI dit sur lui, tous les dossiers qu'ils ont, les murs et tout, et en fait ils se retrouvent à demander aux gens, parce qu'ils sont en train d'écouter un match de baseball, je crois, quel est le score, et en fait les mecs le reconnaissent pas, lui répondent en fait et ils le reconnaissent pas. Et ça, c'est une idée de scène, je trouve, qui était assez intéressante, parce que malheureusement elle arrive un peu tard dans le film, mais en fait c'est presque la scène qui finalement donne raison au personnage de Dillinger quand il dit qu'il est au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il a un train d'avance sur eux, quoi. Il a un truc d'avance sur eux. Et c'est ce qui va le perdre. Voilà. Mais à part ces deux trois idées comme ça qui sont des bonnes, vraiment des vraies bonnes idées en fait différentes, on est quand même dans un truc où voilà, ça reste un film. Et alors il y a aussi un autre truc, c'est que le film est sous-mixé et c'est hyper étrange aussi. Ça, les dialogues sont vraiment très bas, comme t'as pas l'habitude de voir. Donc ouais, c'est un film qui est pas très agréable à regarder et surtout dont tu retiens rien en fait. Donc c'est assez étonnant quoi. C'est un succès par contre. Assez voilà, parce que bon là on avait quand même deux gros stars de l'époque en fait qui étaient Johnny Depp et Christian Bale. Il a développé pas mal de projets qui se sont pas faits en fait entre nous, notamment l'un de ces projets là en fait est sorti en salle l'an dernier, c'était Ford versus Ferrari en fait.
Alors
il
c'était
est...
pas exactement ça, je crois.
Mais il est producteur exécutif sur le film, donc je pense qu'il y a...
Ah, c'était voilà, ça. Ouais. Parce que je pensais que c'était plus un biopic en fait de Ferrari. Plus centré sur Ferrari
mais
en fait.
C'était une des rumeurs, mais apparemment comme il est producteur exécutif sur le film, je pense que c'était quand même dérivé de son projet quoi.
D'accord.
Voilà. Et par contre, il a fait un autre film donc qui est Black Hat.
L'oubli de Black Hat est d'autant plus étonnant que c'est son dernier film. C'est un film qui date déjà de 5 ans, j'ai envie de dire. C'est déjà long. C'est-à-dire que ça fait 5 ans là, qu'on n'a pas vu de film de Michael Mann. Donc moi, il me manque quand même, malgré tout. Et c'est un film qui, pareil, est totalement oublié. Je crois qu'en dollars constants...
À sa sortie, hein, déjà.
Ouais, à sa sortie, en fait, en dollars constants, c'est son plus gros échec, en fait, Black Hat. Parce que c'est un film, par contre, qui a coûté quand même beaucoup d'argent. Mais qui a pas eu de chance déjà à sa sortie. C'est-à-dire que c'est un film en fait produit en indépendant par Legendary, qui est une société qui apporte des fonds en fait aux majors, qui s'associe avec les majors. Donc ils s'étaient associés initialement avec, en tout cas ils se sont fait vraiment connaître en étant associés avec Warner. Ils avaient produit les Zack Snyder notamment. Ils feront Pacific Rim plus tard et Black Hat est produit avec sous ce deal là et en fait ça s'appelle Hacker d'ailleurs au début et en fait Legendary va arrêter sa collaboration avec Warner, va partir chez Universal avec Black Hat en fait dans les bras quoi, et va le donner en fait à Universal à distribuer, à promouvoir. Donc le film déjà se retrouve avec un studio qui n'est absolument en rien à l'origine de sa fabrication et de son initiative. Et c'est en plus, encore une fois, Legendary qui a, je crois, financé la quasi-totalité en fait des 105 millions de... Je crois que c'était 105, 110. Enfin, c'est un film qui a coûté assez cher. C'est un film qui développe depuis longtemps. De toute façon, on peut imaginer que c'est un sujet qui l'intéresse depuis un moment, les hackers, le monde des hackers, en fait, Michael Mann. Et on comprend pourquoi, en fait. C'est parce que c'est un milieu aussi de passionnés, de laisser pour compte.
De solitaire et obsessionnel. Solitaire,
voilà, exactement. Je pense qu'il y a aussi un truc, et ça, c'est une des grandes réussites du film, qui est a priori, c'est complètement anti-cinématographique. Un mec qui est derrière son ordinateur tout seul, en train de taper des codes, et pour rentrer sur un autre ordinateur et pirater un disque dur. Et ça, je pense qu'il y a un vrai défi à comment tu visualises ça et comment tu le fais ressentir en fait, au public. Et c'est pour moi, à mon sens, d'ailleurs, une des grandes réussites du film. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont assez inédites dans le cinéma de Michael Mann, puis qui font appel lourdement aux effets spéciaux numériques, qui est un domaine finalement qu'il n'a pas beaucoup exploré auparavant, et qui sont des scènes en full CG, donc entièrement en images de synthèse, où tu es à l'intérieur en fait, des clusters, des circuits électroniques.
Toi, t'aimes bien ça, parce
que moi, je trouve ça intéressant, parce que tu comprends ce qui se passe. Il y a des choses visuellement qui sont vraiment intéressantes là-dedans en plus, notamment dans la désaturation en fait de certaines images. Et oui, je trouve qu'il y a des pistes intéressantes. Je suis pas sûr qu'il y ait des choses totalement abouties visuellement, mais je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est aussi un film qui a été inspiré vaguement en fait d'une histoire vraie de hacking, qui est une scène qui devait initialement être au cœur du film, qui est le hacking d'une centrale nucléaire qui va se mettre à exploser et que Michael Mann a déplacé assez tardivement en fait à l'ouverture du film.
Et ça se sent. Hein. Enfin, moi, je trouve que tu rentres pas du tout dans le film à cause de ça.
Il y a plein de problèmes en fait dans Black Hat et c'est moi, c'est un film que j'avais beaucoup aimé à sa sortie, que j'ai revu en fait pour les nécessités du podcast et je suis un peu emmerdé parce que c'est moi qui suis censé en parler, mais j'ai été quand même un peu déçu. mais par rapport à, surtout aux souvenirs que j'avais. Alors encore une fois, il y a des belles choses. Il y a notamment, je parlais donc de l'utilisation numérique. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi dans Black Hat, c'est que c'est son premier film réellement international. C'est-à-dire qu'il y avait quelques échappées en Roumanie avec la Forteresse Noire, en Afrique avec... avec Ali, mais il a jamais fait en fait vraiment, il avait jamais vraiment fait un film qui visite le monde entier. Et alors là, tu visites pas le monde entier, mais enfin tu commences quand même aux États-Unis. Enfin, tu commences en Chine, tu vas aux États-Unis, ensuite tu vas à Hong Kong, tu vas en Malaisie et tu finis en Indonésie. Et ça, c'est un vrai bonheur en fait. C'est-à-dire que t'as une Hong Kong, et Dieu sait que c'est une ville qui a été beaucoup beaucoup filmée, y compris récemment. Je crois que je l'ai rarement vu en fait de façon si belle. Et t'as des moments en fait de suspension comme ça incroyable. T'as notamment une scène où les héros s'échappent en fait dans un avion et survolent en fait la baie de Hong Kong au crépuscule. C'est d'une beauté, c'est incroyable, c'est absolument magnifique. Et t'as grâce à ce côté hyper immersif en fait de Michael Mann, vraiment l'impression de voyager, d'y être quoi, d'être avec les personnages, de sentir les odeurs des étals dans ces grosses mégalopoles asiatiques. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Après, le truc de Black Hat, c'est que là, pour le coup, on est vraiment sur du Michael Mann qui fait du Michael Mann. Donc, tout est un peu convenu. Il y a pour moi deux grosses déceptions aussi, enfin deux gros problèmes. C'est le choix de Chris Hemsworth pour le personnage principal.
Est-ce que c'est un choix? Parce qu'en fait,
c'est une grosse question, effectivement. Mais en fait, le problème, c'est pas tant qu'il est mauvais, c'est pas tant que.
Moi, je le trouve pas mauvais. Hein,
Mais le problème, c'est qu'il est hyper fade, en fait. Et que c'est un personnage qui aurait dû être tout sauf fade, quoi. Il trimballe rien. T'as pas l'impression qu'il trimballe de. Un vrai passé, c'est un mec vraiment, vraiment brisé. Il est finalement assez lisse, quoi, comme mec, y compris dans son physique. D'ailleurs, je trouve qu'il a pas du tout.
Je pense que ça fait partie des trucs en fait qui font que le film ne fonctionne pas du tout auprès du public. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, alors je schématise.
Il
n'y
a rien à gagner, ce personnage. En fait,
j'exagère un petit peu, mais en fait, peut-être que dans l'esprit des gens, un hacker, c'est un gros gars derrière son écran, tu vois. Et là, d'un seul coup, t'as un espèce de top modèle qui arrive, qui fait 2 mètres.
Bah ouais, c'est difficile à acheter. Et puis, du coup, ça annule d'autres trucs.
Moi, ça me dérange pas tant que ça dans le film, parce que en fait, en gros, mais je pense que on est arrivé aussi à un stade où quand le film est sorti, il y avait une négation de la star en fait dans les films hollywoodiens. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, on rentrait dans une espèce de logique où, par exemple, il y a le film de Zemeckis qui est sorti peu de temps après, 2 ans après, là, le film justement avec Marion Cotillard et Brad Pitt, où qui était centré sur des affiches de stars. Et je pense que ce côté un peu genre, c'est un personnage qui est plus glamour, enfin c'est un acteur qui est plus glamour que son personnage. Les gens n'achètent plus trop ça en fait aujourd'hui dans le cinéma.
C'est possible. Moi, je pense surtout que ça joue en fait contre la dramaturgie du film, quoi. Et puis il y a un dernier truc qui est aussi assez problématique dans Black Hat et qui est un peu décevant pour un film qui est aussi, on l'imagine aussi documenté. En tout cas, ça sent hein, dans le film, qui est l'antagoniste et son master plan, qui est finalement d'une banalité, d'un cran. Enfin, une fois que tout est dévoilé, tu dis ouais, donc tout ça pour ça. Et puis en plus, l'antagoniste est pareil, très quasi inexistant. Enfin, il a très peu de personnalité.
Après, je trouve qu'il arrive quand même à inscrire le personnage dans ses thématiques à lui, dans ce qu'il est censé raconter, avec cette notion de fuite permanente, tu vois, qui est assez.
Je pense que ce que je vois là-dedans, c'est un peu. C'est aussi ce qui a sauvé Miami Vice, enfin, en large partie à mes yeux, qui est le personnage féminin. C'est-à-dire que l'énorme réussite, et je trouve que d'ailleurs dans Public Enemy il y a ça aussi. Moi, il y a des trucs avec Maren Cotter que j'aime beaucoup en fait dans le film, et je trouve
je trouve que Maren Cotter est problématique,
et les très grandes en fait réussites de Black Hat, c'est ça en fait. C'est le personnage qui est joué par Wei Tang, qui est génial en fait, je trouve, parce qu'elle est à la fois effacée et bouillonnante. Elle est à la fois assez soumise, parce qu'elle est très 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 amoureuse en fait très vite du personnage de Chris Hemsworth, et en même temps elle le domine à plein de moments. Elle prend la main enfin sur les trucs, et elle est je sais pas, il y a un mélange de choses en fait qui se passent chez ce personnage là qui font que tout à coup, au milieu de ce film qui est pas toujours très bien incarné, qui est pas toujours très bien raconté, il y a un cœur qui bat et qui t'emporte à plein plein de moments en fait. Comme je le disais, dans la scène de l'évasion, mais pas seulement, quoi. Puis il y a cette faculté de Michael Mann à te faire un truc qui est à la fois très réaliste et complètement décorrélé de la réalité. Il y a des scènes assez étranges en fait. Il y a une une visite en fait des deux héros, une arrivée dans une carrière d'étain en Malaisie qui est complètement déserte avec un paysage littéralement lunaire. Enfin, c'est une scène tout à fait étrange. Et aussi la séquence finale qui a fait appel à, je crois, il y avait 3000 figurants, enfin un truc complètement délirant.
Que je trouve hyper intéressante.
En Indonésie. Elle est complètement folle cette scène. Et en plus, elle est assez dingue parce qu'en fait, tu as un règlement de compte entre les deux antagonistes. C'est dommage parce qu'elle n'est pas chargée comme elle l'aurait dû être, en fait, dans la haine que les deux personnages se portent. C'est vraiment dommage parce qu'il y a un truc qui se passe où ils sont au milieu du monde, au milieu d'une foule.
D'une procession, en fait.
Une procession, voilà, un truc un peu festif et tout. Et ils sont en train littéralement de s'étriper de façon hyper viscérale, alors que c'est des mecs qui sont tout le temps derrière des ordinateurs pendant tout le truc. C'est assez gore, assez sanglant.
Ouais, avec cette notion d'aller un peu aussi à contre-courant de
la
procession. Voilà,
à contre-courant de tout. Et t'as l'impression que c'est dans l'indifférence du monde total, en fait. Du coup, t'as ces deux personnages de passionnés, des parias, en fait, qui sont en train de s'étriper au milieu du monde.
Mais bon.
C'est assez théorique, en fait, comme idée. Je trouve que dans la pratique, ça marche pas toujours très bien, mais c'est fascinant. Là, il y a une idée de cinéma qui est hyper forte.
Et puis, il y a ce truc, en fait, où on inscrit quand même, et ça, c'est ce qui manquait probablement à Public Enemy le plus pour moi, et qui est quand même au cœur du cinéma de Michael Mann, en fait, c'est d'inscrire, en fait, les personnages dans leur environnement. Et là, en fait, si tu veux, dans la scène, dans le moment, et ça, c'est une évidence que ça fonctionne à ce moment-là pour moi.
Oui, totalement.
Et du coup, en fait, moi, je suis pas comme toi, c'est-à-dire que j'ai pas revu Black Hat pour le coup. Par contre, j'ai beaucoup aimé aussi en sortant du film. Et en tout cas, j'avais l'impression de retrouver le Michael Mann que j'avais perdu avec Public Enemies. Et c'est ça qui fonctionnait. Maintenant, ça c'est pareil, ça a été un bide monstrueux,
monumental. En fait, c'est un film qui donc est sorti en janvier. Donc une période qui n'est pas super faste pour le cinéma en général. C'était encore une fois, c'était un très très gros budget. Et le studio va très vite, en fait, va le sortir sur un gros gros circuit de salle, hein, mais va très vite lâcher le film dès qu'il voit que les premiers chiffres ne sont pas bons. Paf,
mais il est sorti chez nous.
Il est sorti en salle, pareil, dans une indifférence totale. Alors pour le coup, moi je faisais le Grand Frisson, donc une émission, un hebdo de Cinoche. Donc je cours après les infos, après le matos et tout. J'étais le seul, apparemment. Quoi, tout le monde n'avait rien à foutre de ce film.
C'est assez étonnant parce que là,
il n'est pas sorti en salle, par contre, dans tous les pays, y compris, alors ça c'est complètement paradoxal, en Australie.
Ouais. Et alors, oui, parce que Crimson Force.
Bah oui.
Et en fait, le truc, c'est que alors, peut-être pour boucler le podcast, hein, parce qu'on a quand même fait 3h presque 30. Moi, j'ai l'impression que c'est la démonstration aussi qu'en fait, à Hollywood aujourd'hui, les réalisateurs, et vraiment les réalisateurs stars, en fait, se perdent totalement, en fait, avec un bide. C'est-à-dire que là, en fait, en l'occurrence, celui-là, il est assez mastoc. Il y a quand même une star derrière. Et en fait, Michael Mann, bon, certes, il a 75 ans, ne tourne plus. Et je pense qu'on peut plus en fait se permettre des fastes financières sur des projets comme ça. C'est en tout cas le signal qui est envoyé, quoi. L'avenir de Michael Mann, c'est la télé maintenant, mais avec peut-être un projet intéressant parce que l'idée c'est que en fait il tourne à Tokyo. Et pour quelqu'un qui a un fonctionnement aussi immersif et une mise en scène aussi immersive, ça peut être intéressant même si c'est pour la télé. De voir ce qu'il va faire en fait pour filmer ces villes là quoi.
Bien sûr. Et c'est sûr que encore une fois quand tu sors de Black Hat, t'as envie de le voir voyager en fait. C'est vraiment le truc que j'avais retenu dans Black Hat. J'avais envie de... c'était une des facultés de Michael Mann que je ne lui connaissais pas, en tout cas pas comme ça et pas à ce point là et pas sur ces trucs là en fait, cette capacité à te faire parcourir le monde quoi. Juste un tout petit truc que j'ai oublié sur Black Hat, c'est que pour aussi boucler et tout, comme on a beaucoup parlé du cinéma muet, il y a des idées purement de cinéma muet encore dans Black Hat qui sont peut-être pas forcément identifiées telles quelles, et notamment dans les scènes de hacker que je vous invite à regarder quoi. Il y a notamment une idée qui est directement emprunté, que tu voyais souvent dans le cinéma muet et tout, où t'as un personnage, quand il tape au clavier, en fait, le clavier, tout à coup, la caméra est placée en dessous, le clavier devient translucide, voilà. Et c'est génial, en fait, parce qu'il arrive à te le faire passer comme ça, hyper facilement, ça passe comme une lettre à la poste, et en même temps, c'est une idée totalement conceptuelle, totalement avant-gardiste et hyper, hyper culottée. C'est aussi à ça qu'on reconnaît quand même les grands cinéastes, même sur des projets un peu plus mineurs, au regard du reste de sa carrière.
C'est la fin de notre épisode 26 Capture Mag, le podcast.
On sait sur quoi il bosse en ce moment, à peu près. Non
bah, c'est ce que je dis là, ouais, effectivement. Ouais.
Tokyo Vice.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est ça, dont il va réaliser le pilote et dont il sera le producteur exécutif, a priori. Donc, forcément, on pense Miami.
Miami Vice.
Miami Vice Reloaded, c'est un peu étrange comme ou pas, ça dépend. Faudra voir.
Bon, il a fait, on en a pas parlé parce que voilà, mais il a fait des pilotes de séries télé, hein, notamment il y a une série télé chez HBO
Luck,
oui, qui a coûté très cher aussi parce qu'en fait, voilà,
qui a été arrêté, ouais.
Ouais, qui a été arrêté parce qu'ils ont perdu pas mal de chevaux en fait sur les trucs, c'est un truc dans l'univers épique, quoi. Voilà, mais bon, Tokyo Vice, c'est pour qui d'ailleurs, c'est
je cherchais et justement je
ne trouvera pas.
C'est HBO,
c'est ça. Eh bien, merci messieurs.
Merci.
Voilà, c'est la fin de notre podcast. Vous pouvez nous retrouver.
Merci,
alors,
Alain.
Merci à la technique.
La technique, c'est Momo.
Voilà. Et merci à Thomas Capot qui nous aide aussi pour la post-prod. Alors, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux relous là, qui font chier tout le monde en ce moment là. Instagram, Facebook, Twitter, sur YouTube pour voir nos vidéos. On fait aussi cet horrible podcast qui sort toutes les semaines. J'espère qu'on se retrouve très vite pour un épisode 27 dont on garde le sujet. J'ai envie de dire secret, mais pas forcément secret en fait.
On sait pas,
c'est tout quoi. Et
qu'est-ce que tu voudrais faire, Rafik? Tiens, on va le décider là. Tu voudrais faire quoi, toi? Roland Emmerich, ça te va?
Ça fait 3 ans que je demande Roland Emmerich. J'ai perdu mon seul allié dans cette
affaire. Over my dead body. Voilà. On a fait Michael Bay, c'est pour pas faire Roland Emmerich justement quoi. Et puis, on se retrouve, je pense, dans une dizaine de jours. Merci, messieurs.
Salut.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.